Matière à penser, Patrick Boucheron.
Troisième émission consacrée cette semaine à poésie et histoire. S'il y a bien un poète qui fait rentrer l'histoire dans la poésie avec fracas et avec joie aussi, dans un grand rire éclatant, c'est Jacques Jouet, écrivain, poète, romancier, oulipien. Je suis très heureux de le recevoir à ce micro. Bonsoir Jacques Jouet.
Bonsoir Patrick Boucheron, je suis très content d'être là également.
Ah ben alors donc vous êtes un écrivain qui a appris à l'être, Jacques Jouet. Vous avez fait un stage d'écriture et ça a marché.
Oui, c'était en 1978. Un jour, à l'époque, je travaillais comme animateur culturel dans une MJC en banlieue. Et je reçois une information comme quoi l'Oulipo, dont je ne connaissais pas l'existence d'ailleurs.
Ah, vraiment pas.
Organisait un stage d'écriture et les maîtres de ce stage se nommaient Georges Perec, Jacques Roubaud et Paul Fournel.
Et c'était les trois animateurs, on va dire, du stage.
Les maîtres au sens de la Renaissance. Et j'ai fait, séance tenante, un chèque d'inscription et je me suis retrouvé à l'abbaye de Royaumont pour 6 jours de travail intense avec ces pointures-là.
Et vous êtes sorti écrivain ?
Non, je l'étais déjà un petit peu, mais ça a été, oui, la rencontre d'un groupe, de méthodes de travail et de perspectives nouvelles.
Et vous êtes toujours, donc,
on ne peut pas, membre on de... On ne peut pas ne plus être on... membre de l'Oulipo si on l'est devenu.
Et donc vous continuez d'ailleurs à inventer des formes, des contraintes, c'est ça l'idée évidemment de l'ouvroir de littérature potentielle.
C'est ça.
Votre dernière invention pour vous compliquer la vie, c'est quoi ?
Vie de poète. Alors, c'est pas tout à fait une invention, c'est une adaptation de contraintes qui existaient dans la poésie italienne de la Renaissance, les vers rapportés, qui étaient beaucoup utilisés par la Pléiade et sur lesquels on n'a pas, à l'Oulipo, encore énormément creusé, donc je suis en train de travailler là-dessus. On avait une réunion hier soir, j'ai apporté quelques éléments, j'espère, d'inventions futures.
Vous continuez les poèmes de métro. Vous pouvez nous expliquer comment ça se compose, un poème de métro?
Oui, un poème de métro se compose dans le métro pendant le temps d'un parcours. Et on écrit le premier vers dans sa tête. L'écriture est mentale pendant que le métro roule. Et lorsque le métro s'arrête à la station suivante, vous pouvez transcrire le vers.
Mais seulement quand la rame est à l'arrêt.
Oui, c'est ça. On compose mentalement quand elle roule et on transcrit physiquement sur le papier quand elle est à l'arrêt. Ça repart et on continue le poème de cette façon. Le poème ne doit pas être corrigé. C'est-à-dire que c'est le poème qu'on est capable de faire dans cette contrainte de temps, de production de temps. Donc c'est le métro qui écrit, c'est pas moi finalement.
Vous êtes venu en métro, Jacques Jouet ?
Oui, bien sûr.
Et alors ?
Là, non, j'ai pas fait de poème de métro. J'ai préféré relire un petit peu de mes grands auteurs, poètes, historiens.
On va parler des poètes, des historiens. Vous êtes venu avec votre bibliothèque, mais aussi d'ailleurs certains de vos livres. C'est une bibliothèque. J'ai lu quelque part qu'il y a 700 titres à votre bibliographie. C'est un peu...
Oui, mais 700 titres, ce sont des articles, des petites choses. Il n'y a pas 700 livres, vraiment.
Alors, il y en a un qui m'a particulièrement attiré dans votre œuvre, Jacques Jouet. Il est paru en 2010. C'est l'histoire-poème avec un S. C'est l'histoire qui est, d'une certaine manière, racontée, mais deux fois, dans des poèmes. Une fois de manière descendante, une fois de manière ascendante, parce que le premier ordre est régressif et puis ensuite on revient. Il est paru chez POL, votre éditeur, en 2010. Et quel était le projet de ce livre monstre, de ramener au fond toute l'histoire en poésie ?
L'origine du projet vient de la peinture, figurez-vous, Patrick Boucheron. Un jour, je me suis dit, pour écrire de la poésie, pour composer de la poésie, je vais voler aux peintres leur domaine. À ce moment-là, j'ai commencé à faire... des natures mortes, ensuite j'ai fait des portraits, ensuite j'ai fait des autoportraits, ensuite j'ai fait des paysages, ensuite j'ai fait des portraits de groupe, Et qu'est-ce qu'il me restait à faire ?
La peinture d'histoire.
La peinture d'histoire.
Et c'était le genre manquant. Ouais, mais c'est pas pour rien qu'il manque à la poésie, quand même, la peinture d'histoire.
Il ne manque pas complètement, mais peut-être que, dans les 100 dernières années, c'était peut-être pas la préoccupation majeure des poètes, il est vrai. Avec quelques brillantes exceptions, tout de même.
Qui étaient ?
Oh, j'ai été très marqué, par exemple, quand j'ai commencé à faire ce travail, j'ai relu Neruda, Chant général, qui est un livre magnifique. J'ai relu Mausolée de Enzensberger, qui est un livre magnifique, alors qui sont vraiment des poèmes d'histoire.
Et là, pour Neruda, par exemple, poème d'histoire, ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire mettre en langue, mettre en beauté le fracas de l'histoire ? Ou est-ce que ça veut dire autre chose que la poésie seule pourrait amener jusqu'à nous ? Comment vous définiriez le rapport entre la poésie et l'histoire chez Pablo Neruda, par exemple ?
Non, c'est ça l'ambition de Neruda, est de, bien sûr, de faire l'éloge de son continent.
Oui.
C'est un projet extrêmement vaste. D'ailleurs, les livres qui ont cette ambition sont en général des livres assez volumineux. Il y a ça, effectivement. Pour moi, il y a toujours le rapport de parler d'événements ou de parler d'un pays, de parler de figures peut-être très connues ou au contraire extrêmement humbles, puisque dans le livre de Neruda, il y a également des poèmes qui sont faits sur des ouvriers qui sont nommés, voyez. Et puis, bien sûr, oui, le rapport de la beauté de la langue. C'est-à-dire, je pense que si on écrit de la poésie, on a quelque chose à voir avec la beauté dans la langue, avec la gratuité dans la langue, avec le jeu dans la langue, avec le rire dans la langue, avec l'invention dans la langue. Toutes ces choses-là qui, pour moi, font la poésie.
Le rire, on va en parler, Jacques Jouet. Qu'est-ce qui, au fond, retient les poètes de s'inscrire dans cette lignée, dans cette tradition ? Qu'est-ce qui les empêche d'amener de l'histoire dans leur poésie ?
Vous savez, c'est l'affaire de la modernité. Le concept de modernité ne m'intéresse pas beaucoup. Celui de potentialité, oui. Et je voudrais tenter de remplacer cette idée de la modernité qui est devenue si dominante quand on parle de littérature et en particulier de poésie, par la notion de potentialité. C'est pas moi qui l'invente, c'est l'Oulipo en l'occurrence, hein,
oui.
Ouvroir de littérature potentielle. Si on parle de potentialité, on n'est plus dans un système d'avant-garde, de table rase qui ont été si dominantes dans le XXe siècle en particulier.
Mais on ouvre le temps,
c'est ça.
On ouvre le temps, oui, à des potentialités qui ont pu être inaperçues ou inabouties. Et pour vous, c'est ça l'histoire poème ?
Oui, bien sûr, c'est ça. Vous savez, moi je suis à la fois comme lecteur et comme poète, je crois profondément un éclectique. C'est-à-dire que je suis un passionné de Victor Hugo parce que je suis un passionné de Mallarmé. Et je suis un passionné de Mallarmé parce que je suis un passionné de Victor Hugo. J'ai pas envie de choisir entre l'un ou l'autre. En revanche, quand on alterne la lecture de ces deux massifs, il se passe énormément de choses. Parce que on touche à ce moment-là, une sorte d'énergie des contraires dans la lecture qui m'intéresse énormément.
L'énergie des contraires, c'est effectivement quelque chose d'important dans votre littérature, dans votre art poétique. Je parlais de l'histoire poème. Voilà un gros livre volumineux, ambitieux, des poèmes avec des notes de bas de page, des poèmes avec une bibliographie et des poèmes avec un index, 1700 noms dans l'index. C'est impressionnant, c'est une somme.
Et oui. Les notes de bas de page sont simplement des références de lecture. C'est-à-dire que ce livre est pour moi aussi d'une certaine façon une histoire de mes lectures. Et toujours, chacun de ces poèmes procède d'un livre, d'une lecture. Que ce soit une lecture d'un historien, que ce soit une lecture d'un roman, d'un poème d'un autre, de documents, de la presse, d'archives, puisque ça m'est arrivé assez souvent de me projeter dans les archives, physiquement, alors dans les archives. Et voilà, tout ça en fait partie. Et puis, il y a aussi, enfin, j'ai aussi l'ambition, je ne sais pas si j'y arrive, mais l'ambition de faire une histoire de la poésie aussi.
Par exemple, presque à la fin, le 226, une chaîne d'exactitude, poème de Bandy. Alors ça, c'est un genre de l'Oulipo. Le poème de Bandy, c'est une manière de prendre de la prose, c'est ça?
On écrit à peine de le poème. C'est-à-dire qu'on prend un morceau de prose qui nous plaît et on le dispose comme s'il était un poème, en le mettant en vers.
Et ça donne ceci. Toute son enfance, à lui, poète, n'a été qu'une longue rêverie mêlée d'études exactes. C'est cette enfance qui a fait son esprit ce qu'il est. Il n'y a d'ailleurs aucune incompatibilité entre l'exact et le poétique. Le nombre est dans l'art comme dans la science qui regarde le plus grand honneur du poète d'accomplir juste ce qu'il a projeté de faire dans sa mise en scène spirituelle exacte, et l'écritoire nourrit avec diligence la plume fertile en comptes exacts, seul astre exact, un livre. Suivent effectivement les sources, donc on a les rayons et les ombres de Victor Hugo, on a Stéphane Mallarmé, on a Raymond Queneau, et on a aussi, seul astre exact, un livre, Anagramme de l'avenir est au lecteur, de la bibliothèque de l'Université Paris 8 à Saint-Denis, architecte Pierre Riboulet.
Et ça, c'était Michel Grangot, la poète Michel Grangot, qui avait trouvé cet anagramme.
Et là, il y a quelque chose de très, très beau, qui est justement le rapport entre l'exactitude et la poésie,
oui,
qui, pour vous, ne sont pas incompatibles.
Au contraire. Et dont je trouve des échos cités ici, de Hugo, de Mallarmé, de Queneau, de Michel Grangot.
Et c'est ça qui vous autorise donc à mettre des références au poème.
Oui.
Alors, par exemple, est-ce que Neruda vous donne des leçons d'exactitude?
Ah oui, bien sûr. Alors Neruda, par exemple...
Lisez-nous peut-être.
Une section de Chant Général qui s'intitule « La terre s'appelle Jean ». Là, il quitte le terrain des grandes figures de l'Amérique du Sud, dont il parle brillamment, et il s'intéresse à des gens très... voilà. J'allais dire ordinaire, mais ils sont extraordinaires d'être ordinaires. Et ce personnage s'appelle Olegario Sepúlveda, cordonnier. Et Neruda les fait parler à la première personne. Mon nom, Olegario Sepúlveda. Je suis cordonnier et je boite depuis que la terre a tremblé si fort. J'ai reçu un pan de coteau sur ma cambuse et le monde entier sur ma jambe. Durant 2 jours, j'ai crié, mais ma bouche s'est remplie de terre. Mon cri s'est fait plus doux, et puis je me suis endormi pour attendre la mort. Etc. Oui, très magnifique.
Et là, il y a un enjeu aussi politique de la nomination des humbles.
Oui, bien sûr.
Est-ce que cette poésie de l'exactitude, qui est aussi, au fond, une manière de reconnaissance de l'ampleur de l'histoire, est-ce qu'elle peut, on en a fait une petite allusion, être drôle? Comment, au fond, concilier le poétique et le rire?
Là, Patrick Boucheron, vous touchez peut-être à l'échec de mon entreprise de départ. Je retrouvais...
C'est pas ce que je voulais. Hein. C'est pas...
Je retrouvais tout à l'heure dans le métro ceci. Les tableaux riants sont rares dans ce livre, cela tient à ce qu'ils ne sont pas fréquents dans l'histoire. Victor Hugo, préface de la légende des siècles.
D'accord.
Alors, j'ai essayé, c'est pas toujours facile. Je suis en train en ce moment de mettre la dernière main à un long poème qui sera dans le tome 2 de l'histoire poème. Ce poème s'intitulera « La bataille de Drancy ». Je dois dire que je ne peux pas faire un poème très drôle sur l'histoire de Drancy entre 42 et 44 ou 45, vous voyez. Donc non, c'est pas très facile.
C'est une limite.
C'est une limite. Il y a peut-être quelques exceptions. Il n'y en a pas tant que ça. Il y en a moins que je ne pensais qu'il y en aurait quand j'ai commencé ce projet, vous voyez.
C'est d'ailleurs pour cela peut-être que le dernier poème de l'histoire poème s'intitule « Le rire de l'historien ».
Voilà. C'était le petit regret final peut-être. Mais...
Qui se terminait d'ailleurs par une explication de texte, si j'ose dire. Mon sujet cependant aura été autant le poème que l'histoire. Que dis-je, le poème? Les poèmes seraient préférables, ainsi que l'histoire des poèmes et de leur manière. Si bien que c'est enfin dit que le titre, comme le livre lui-même, finira par la lettre du doute, selon Bernard Cerchiglini, une S. Qui est d'une certaine manière le dernier mot de ce que la poésie peut dire de l'histoire?
Dernier mot, je ne sais pas. Je ne sais pas quel sera le dernier mot du tome 2.
Alors, parlons du tome 2, justement, parce que nous avions le mois dernier reçu ici même Bernard Cerchiglini, linguiste, mais aussi éminent membre de l'Oulipo. Il nous parlait de l'invention de Nithard, c'est-à-dire une relecture des serments de Strasbourg. Ben, ils y étaient, les serments de Strasbourg, dans l'histoire poème.
Oui, ils y étaient dans la section centrale qui s'occupe des langues, la question des langues.
Hein, c'était le 10e. Louis jure en français, Charles en allemand, à savoir dans la langue qu'il laisse à l'autre. Serment de Strasbourg, 842. Et si on se reportait effectivement aux notes, on voyait effectivement déjà Bernard Cerchiglini.
Et d'ailleurs, le dernier livre de Bernard Cerchiglini, L'invention de Nithard, fera l'objet d'un poème dans le tome 2 de...
Donc c'est ça aussi votre méthode, Jacques Jouet, c'est que vous mettez en poème les livres, les situations,
voilà, alors
l'histoire.
Encore une fois, la lecture est centrale dans cette affaire. Bon, l'histoire est un récit, il faut bien le lire, il faut bien la lire. Alors quand je j'ouvre un livre d'histoire, je ne choisis pas forcément... En hiérarchisant les plus grands livres d'histoire à lire, des choses comme ça. Pas forcément, ça peut être des choses rencontrées un petit peu par hasard, invraisemblables, pas connues, tout est possible. Et alors quand j'ouvre le livre comme ça, je cherche, c'est plus une oisiveté qu'autre chose finalement. Il faut qu'il y ait quelque chose qui m'accroche, voilà. Et je sais pas quoi, alors je lis 150 pages, 100 pages, il se passe rien... Et puis peut-être à la 128e, tiens, il y a quelque chose qui... Là je sais. Oui.
Expliquez-moi la nécessité de la composition de l'histoire-poème, Jacques Jouet, en deux volets qui sont séparés effectivement par ces brefs poèmes sur la langue. Retour, première partie. Aller, deuxième partie. Dans Retour... On part d'aujourd'hui et on va au passé, dans aller, on repart du passé et on va à aujourd'hui.
Oui, alors, déjà, commencer par le retour, j'avais été très frappé par une histoire de la Pologne, d'un certain Gardner Davis, que vous connaissez sans doute, qui est une histoire tout à fait étonnante, parce qu'elle part, d'aujourd'hui et elle remonte de 20 ans en 20 ans, jusqu'à l'origine. Ça m'a beaucoup frappé parce que j'avais trouvé que la dynamique de lecture était très différente d'un livre d'histoire qui part de la préhistoire, du Moyen-Âge.
Et en même temps, déjouer la linéarité de l'histoire, c'est toujours difficile.
C'était assez
parce
étrange.
En fait, on prend des séquences et on les met en ordre inverse.
Ouais. Mais cela dit, on partait évidemment sur la Pologne de choses extrêmement brûlantes, vous voyez, de l'histoire très récente. Et donc je m'étais dit, je vais d'abord commencer par une manière de reculer vers les origines. Et puis, quand arrivé au bout, j'avais pas du tout l'intention de m'arrêter. Donc à ce moment-là, je me suis dit, ben voilà, je vais refaire un autre chemin inverse, en passant d'ailleurs par au milieu du livre, par une sorte d'intermède, où je m'intéresse vraiment aux langues, à des anecdotes, où l'ensemble des langues parlées dans le monde, ou une partie des langues parlées dans le monde, dit quelque chose de ce phénomène des langues.
Mais là, le rire de l'historien peut arriver, mais il est très sérieux ce rire, c'est celui d'un gai savoir, parce que l'historien vous dirait, mais oui, au fond, ce que révèle l'histoire poème, c'est que ce que nous appelons l'ordre chronologique n'est que l'inversion de l'opération historiographique elle-même, qui va toujours du présent, oui. De l'affleurement du passé dans le présent aux couches les plus profondes du passé tel qu'il fut. Donc c'est au fond, vous mimez ou vous reproduisez le mouvement même de la connaissance de l'histoire.
J'espère.
Ah bah, très
bien. Je vous entends.
Alors,
dans le tome 2, je vais dépasser le moment présent et je vais terminer sur des poèmes du futur.
On peut les lire, ces futurs poèmes, sur votre site, Jacques Jouet.
Quelques-uns, oui.
Quelques-uns, mais pas celui-là, vous l'avez amené?
J'en ai apporté un qui sera le dernier poème de ce tome 2, et qui doit être le dernier parce qu'il s'intitule 5 milliards d'années plus tard. Et dans 5 milliards d'années, le soleil sera mort.
Donc là, on est vraiment au bout.
C'est la mort du soleil. Donc voilà le poème de la mort du soleil. Aujourd'hui, le soleil a 5 milliards d'années. Il se trouve au milieu de son espérance de vie. Et je ne sache pas qu'il y ait de succès d'années à cette froide estimation qui lui attribue tout de même une belle endurance. Bien avant cette fin, la Terre, dans 1 ou 2 milliards d'années, aura perdu les eaux de la dernière chance. Elle atteindra le bout de son rouleau, fané, sous ce soleil plus gros, plus lumineux, plus dense. Océan de magma sous le nouveau géant, l'être se continue en habit de néant, fondu mieux que fendu toutes les épitaphes, les travaux du burin, les pleins et les déliés, leurs supports de granit et leurs comptes de pied. J'ai vu la Loire, elle était basse, et moi, j'ai soif.
History caught every gesture. It caught every gesture. Caught every gesture and every word. Whisper of transforming us as we transfixed.
The deputy
transforming us as we transfixed.
The minister
transforming us as we transfixed. Made history.
Culture, matière à penser, Patrick Boucheron.
En compagnie du poète Jacques Jouet, auteur de La Dernière France chez POL, dont on parlera tout à l'heure, mais aussi de l'histoire poème dont il nous annonçait chez son éditeur POL, toujours le deuxième tome. Vous êtes venu avec un opéra, Nixon in China. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on entend ?
Là, on entend un opéra sur un sujet historique récent, très drôle, puisque c'est le voyage de Nixon en Chine, où il rencontre Mao, où il rencontre Chou Enlai. Et l'opéra commence là, on entendait un morceau où Nixon descend sur le tarmac de l'aéroport et où il va serrer la main de Chou Enlai. À ce moment-là, il a une espèce d'illumination sur les news. Il chante « news, news, news ». Les nouvelles, l'actualité, mais je suis en train d'entrer dans l'histoire. Enfin, il y a une sorte de délire où il fait rimer history, et on entend un peu hystérie quand même, un petit peu
oui.
Aussi. il rimer history et mystery.
Nixon in China de John Adams.
John Adams.
Où en sommes-nous du projet poétique planétaire, Jacques Jouet ?
Alors, le projet poétique planétaire avance à grands pas.
Vous pouvez nous rappeler ce que c'est ? C'est un projet assez ambitieux, hein ?
Non, ce n'est pas un projet très ambitieux. Il s'agit d'adresser un poème par voie postale à chacun des êtres vivants humains de la Terre. Pour le moment, nous nous limitons aux humains.
Oui, c'est en cela que c'est un projet modeste.
Et donc, j'ai commencé ça il y a maintenant presque 6 ans, et puis un certain nombre d'amis poètes m'ont rejoint. Donc chaque jour, nous envoyons en général à quelqu'un qu'on ne connaît pas, puisqu'on on trouve les noms et les adresses dans l'annuaire du téléphone actuellement du département de l'Ain, 01, ça tombe bien, on peut commencer par le début. Mmh. Et puis la Lozère également, et puis nous...
Vous arriverez à l'Aisne Conques.
Dans plusieurs siècles.
Hein.
Oui, oui. Mais ça ne nous empêche pas d'anticiper des territoires. On a fait des campagnes de poèmes. On appelle ça des campagnes de poèmes. On en a fait au Japon, on en a fait au Niger, on en a fait au Canada, au Danemark, dans quelques villages en France. Voilà. Une grosse activité qui est une entreprise purement philanthropique. Nous achetons les timbres nous-mêmes.
Alors justement, cette question du rapport au fond de la poésie à l'histoire et au monde, c'est l'objet de ce livre, l'histoire-poème, de ce recueil dont on parle. Vous pouvez nous lire un de ces poèmes justement qui a à voir avec le temps, avec le temps révolutionnaire ?
Les mois de la Révolution, tiens par exemple.
Voilà, par exemple.
Si c'est avec des si qu'on fait la révolution, si c'est avec des si qu'on cesse de faire des concessions, et si les mois du mot ressemblent à la chose, alors ils sont gorgés chacun de leur part des quatre saisons, les mots des mois qui nous glaceront en frimaire, et si les gouttes de pluvieuse sont hivernales, on sera bien content de les toucher encore en germinal, pour peu qu'aient séché les sols les vents de ventose, les rasants, les glaciaux, les terribles, qu'au mois de floréal, enfin, l'on ose offrir un bouquet de fleurs messicoles avant Messidor, à qui de droit, songeant à bien plutôt qu'à mal, des sucres d'orge et des pâtes de coin, le 25 de Nivose. Et si, la tête à l'ombre du gras du bras, l'on dort, les jambes écartées graves sur un gazon de prairial, après les foins, avant les foins, après l'amour, gare à la venue des monstres engendrés par Brumaire. Ceux dont au risque de leur vie nous protègent nos mères, qui s'occupent de tout sans jamais céder à la fatigue, cuisent, raclent, rêvent, aèrent, cirent, allaitent, pétrissent, qui coupent les doigts pas encore gourds des vendémiaires, des habits de drap, montent des toques de laine pour un thermidor, portable sur les épaules qui se protègent du froid de l'air et voudraient être les plus belles pommes érotiques de Fructidor. Si donc les saisons qui ne sont pas partout quatre se divisent pourtant si l'année est de 12, si le châle de la fonction harmonique n'avait pas voulu changer en Michel son prénom de floréal, et si le calendrier de nos révolutionnaires avait commencé plus tôt, s'il n'avait cessé d'être actif jusqu'aujourd'hui, alors, et pour de vrai, la nuit du 4 août serait venue en thermidor, en pluviose ou ventose l'arrêt des bateaux de grains sur l'Aisne et sur l'Oise, François-Jean de la Barre aurait été poing, langue et tête coupées brûlées en Messidor, Zola aurait succombé d'asphyxie en Vendémiaire, la France aurait perdu une bataille mais pas la guerre en Prairial, en Brumaire lui aussi le coup du petit Grand Aisne qui rimait avec l'autre, tu aurais pris la Bastille en Messidor, le 14 s'il y avait eu Messidor, Henri Rochefort se serait évadé du bagne en bateau en Ventose, et tant mieux pour sa voile, mon père démobilisé sans doute en Prairial, le sien retour de captivité en Brumaire, en Fructidor les protestants de France auront goûté le fruit de la mort, cueilli pour eux par de bons catholiques, comme s'il ne faisait pas assez chaud à Washington, c'est en thermidor que Truman largue nos bombes d'alliés sur Hiroshima puis sur Nagasaki. Est-ce que ça n'est pas là de la mnémotechnie ? Et si encore pas plus tard que demain, l'été chaud, l'automne chaud, l'hiver brûlant, le printemps rouge, une poignée de laissés pour compte choisissait fructivore pour mettre le haut là aux accaparements, si Vendémiose entrait brusquement dans l'histoire, comme le mois rêvé où le citoyen finit d'être poire, en bâtissant une barricade avec autant d'art que si c'était une cathédrale, alors ensemble, germinaire et messidal, et floréose auraient eu toutes les hardiesses, et niréal et terminaire et plus jamais sauze, et c'est de liberté qu'on aurait recherché l'overdose. Liberté générale avant mon pas de porte, d'un temps futur signé des deux mains dont on vivrait le recommencement en mieux, l'âge d'or enfin documenté remplissant les archives. Restons calmes.
Jacques Jouet, l'histoire-poème, un S qui désigne effectivement ce qu'il y a de potentiel dans cette poésie qui, disiez-vous tout à l'heure, ouvre le temps, qui n'inscrit pas simplement le temps tel qu'il s'est déroulé, mais au fond tel qu'il pourrait se développer. C'est de cela dont il s'agit. Et si le calendrier révolutionnaire avait continué à révolutionner le temps de la France, seulement ça ne s'est pas passé comme ça. Un des romans que je trouve terrible et réjouissant que vous venez de publier, enfin en tout cas c'était en 2000, l'année dernière, toujours chez votre éditeur POL, s'appelle, le titre est magnifique et terrible, La dernière France. Est-ce que vous pouvez nous en rapporter l'intrigue?
La dernière France. Tout simplement le personnage, les deux personnages centraux du roman, ils sont frères et sœurs, ce sont des jeunes gens qui ont la vingtaine d'années, ont des parents qui meurent quasiment, le père et la mère quasiment en même temps. Et stupéfaction, ces deux jeunes gens découvrent dans la maison une bibliothèque, qui est une sorte d'enfer, mais pas d'enfer...
caché ?
Une bibliothèque cachée, qui était totalement cachée d'eux, mais qui n'est pas un enfer érotique particulier, mais au contraire un enfer politique, puisque c'est une bibliothèque assez complète de titres de littérature d'extrême droite et antisémite en particulier.
Elle est brune, et elle est brune d'ailleurs matériellement, puisque
elle est brune, elle est couverte de papier Kraft, oui, les livres sont couverts de papier Kraft. Et donc ces héritiers, on se retrouve avec cet héritage incompréhensible, puisque les parents n'étaient pas particulièrement ni de droite ni d'extrême droite, a fortiori. Donc c'est le mystère complet. Et ils doivent, c'est un peu l'histoire du roman, ils doivent se débrouiller avec cet héritage. Et ils s'en débrouillent assez différemment d'ailleurs l'un l'autre.
Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes des personnages de roman? On pose la question du quatrième de couverture. Comment on hérite de cette dernière France? C'est un roman terriblement inquiétant et sombre, et à le lire aujourd'hui particulièrement, on se rend compte que sous évidemment l'inventivité, l'énergie, la poésie, la drôlerie de l'Oulipo, là il y a quand même un diagnostic sur au fond ce que nous sommes en train de vivre.
Oui,
ou ce que l'on pourrait vivre.
Probablement. Maintenant, La dernière France, le titre joue sur l'ambiguïté de dernier, tout de même. Est-ce que c'est la dernière en date ou l'ultime? Moi, ça m'intéresse évidemment beaucoup d'avoir cette ambiguïté.
Et comment...
Je pense que ça n'est pas l'ultime.
C'est pas l'ultime. Et d'ailleurs, les deux protagonistes du roman, Lémonie et Clotilde, qui sont frères et sœurs, réagissent différemment.
Oui, l'une prend ça... Finalement, il ne prend pas ça au tragique. Lui, Lémonie, se donne une sorte de devoir de lecture. C'est-à-dire qu'il dit, si j'hérite de ça et que je n'ai pas renoncé à cet héritage, eh bien, ces livres, il faut que je les lise.
Lémonie, en conséquence, ne voyait pas a priori d'un mauvais œil les pages économiques des journaux qu'il parcourait, de façon d'ailleurs assez inconsistante. C'était pour lui comme une langue étrangère, mais qui avait peut-être le charme d'une musique. Vous savez à quelle page je lis cela?
Non.
La page 112.
Ah, la page 112,
tiens. Vous en êtes fier pourtant de la page 112, vous avez eu le prix de la page 112.
Oui, mais juste...
C'est un prix littéraire qui récompense les meilleures pages 112.
C'est pas exactement qui récompense les meilleures...
Enfin, qui part de la lecture de la page, choix, qui fait son choix à partir de la page 112.
Oui, mais une fois qu'ils ont fait leur choix, ils lisent quand même le livre complet, ça je le sais.
C'est totalement impossible.
Et quand ils m'ont dit ça, j'ai regardé ma page 112, je n'étais pas très content de ma page 112.
Je viens de vous en lire un extrait. Alors, vous n'êtes pas non plus très content dans ce roman de sa longueur, parce qu'aux deux tiers, vous dites, c'est un peu trop long, et vous logez dans ce gros roman... Un roman bien plus court, de 60 pages, qui le rassemble plus nerveusement, puis ensuite vous repartez.
Oui, ça c'était une plaisanterie, parce que mon éditeur, Paul Tchaïkovski-Laurence, qui, comme vous savez, a disparu il y a un an de ça, est mort il y a un an, avait coutume de me dire « Jacques, c'est bien, mais c'est un peu long ce que vous faites. » Et cette fois, j'ai voulu lui faire une petite plaisanterie. Je lui ai dit, écoutez Paul, je peux pas couper, mais je vais rallonger en donnant une version courte de ce roman.
Et il a joué le jeu parce qu'à partir de la page 429 suit un intermède et puis à nouveau une couverture, à nouveau un ISBN, à nouveau l'exergue. Tu connais pas la dernière et ça repart en 60 pages, mais ça n'interrompt pas la lecture.
Voilà.
C'est ça la dernière France ? C'est d'une certaine manière intermède où d'une certaine manière on hésite entre le dernier et l'ultime. C'est-à-dire que pour vous, le dernier mot n'a pas été dit.
Oui. Oui, oui, effectivement. Comment terminer ? C'est pas très simple de terminer. Est-ce qu'il faut terminer ?
Alors, on n'en a pas tout à fait terminé, parce que justement, cette question de la poésie, vous l'avez évoquée, Jacques Jouet, aussi à partir de ces ombres tutélaires. Et notamment, on parlait de Victor Hugo. Quel peut être quand même... Pour un écrivain comme vous, qui a à voir avec le monde et le monstre, effectivement, cette attirance de l'écriture poulpe, comme disait Michel Butor de Victor Hugo.
Oui, belle formule.
Oui, parce qu'il vient vous chercher des profondeurs de la mer, vous attire.
Des travailleurs de la mer.
Oui. Les travailleurs de la mer.
Oui, bah, Hugo, c'est... C'est d'abord le vers pour moi, voilà. Quand je relis et très très souvent, par exemple, ce poème extraordinaire, le cimetière des Lots.
Oui.
Un poème de bataille qui pourrait sembler être une épopée un peu guerrière comme ça. Il y a quelque chose de tout à fait extraordinaire parce que le bataillon donc de son oncle qui lui raconte la bataille fond. C'est l'hiver en Prusse, il y a de la neige, mais la neige est, il fait très très froid. Mais c'est le bataillon qui fond, puisque au départ, ils sont 120 et ils se retrouvent à la fin 3. Le dernier mot du poème, c'est 3. Et on assiste au cours de cette bataille à la diminution du groupe. C'est tout à fait extraordinaire.
Et là, on a une peinture d'histoire, disiez-vous au départ, Jacques Jouet.
Oui.
Mais une peinture d'histoire qui se ramène justement à la simplicité fondante, désarmante du vers. Vous pouvez nous en lire peut-être
oui, bien sûr.
Un passage.
Bon, ben, je vais vous lire
la fin.
La fin, parce que il faudrait tout lire, mais on a pas le temps. Soudain, le feu cessa. La nuit sembla moins noire, et l'on criait victoire, et je criais victoire. J'aperçus des clartés qui s'approchaient de nous. Sanglant sur une main et sur les deux genoux, je me traînais, je dis « Voyons où nous en sommes !» J'ajoutais « Debout tous !» et je comptais mes hommes. « Présent !» dit le sergent. « Présent !» dit le gamin. Je vis mon colonel venir l'épée en main. « Par qui donc la bataille a-t-elle été gagnée ?»« Par vous » dit-il. La neige était de sang baigné. Il reprit « C'est bien vous, Hugo, c'est votre voix ?»« Oui. » « Combien de vivants êtes-vous ici ?»« 3. »
On n'en a jamais fini, en fait, avec Victor Hugo.
Cette fin est absolument extraordinaire. Et en plus, c'est d'un point de vue strictement poétique, c'est un trimètre. C'est-à-dire qu'il y a deux césures. Il y a un premier morceau du vers qui est « oui », une seule syllabe. Ensuite, il y a « combien de vivants êtes-vous ici ?» 10 syllabes. Ensuite, il y a une autre césure, 3. C'est un trimètre.
Donc en fait,
c'est la guerre de Troie en plus. Alors vous voyez, ça fait beaucoup de choses.
Donc ça, c'est effectivement l'Oulipien qui parle, qui va chercher l'exactitude dans le poème.
Il y a à la fois l'histoire, il y a l'ambiance historique, il y a l'anecdote, il y a le vécu du soldat, mais il y a aussi la poésie qui est extrêmement exacte.
Voilà, c'est l'exactitude et au fond l'inscription du temps dans le poème chez Hugo, il va amener à ce que seul le poème pourrait dire, parce que vous parliez de poésie d'histoire, mais qu'est-ce qui pourrait être autre chose que de la poésie dans cette histoire-là ?
Il faut que la poésie soit dite en disant ce qu'elle dit.
Olivier Barbaran était à votre place hier, lui on pense plutôt pour Aragon, mais pas fini avec Victor Hugo. Vous, au fond, vous diriez aussi que Victor Hugo, malgré tout, où vous avez une énergie plus nerveuse et plus ou vous avez simplement un attachement?
Non, moi, je suis un inconditionnel de Victor Hugo. Mais de Hugo Mallarmé. Alors, en fait, le grand poète du 19e siècle français, c'est Hugues Armé.
C'est-à-dire les deux.
C'est-à-dire les deux. Il y en a un qui naît en 1802, ce siècle avait 2 ans, et l'autre, c'est quand même étrange, meurt en 98.
Donc pour vous, c'est il suffit même de rabouter les deux.
C'est le même.
Pour avoir le poète absolu.
Oui, bien sûr. D'ailleurs, le mot Ptix n'existe que chez deux poètes dans toute la littérature française. Victor Hugo, Stéphane Mallarmé.
Mais quand même, l'histoire, c'est plus difficile de la trouver chez Stéphane Mallarmé. Est-ce que lui écrivait des
non,
histoires,
elle
des poèmes?
Non, elle n'y est pas, mais Mallarmé était trop impressionné par la masse hugolienne. Donc il a dit, il faut que je fasse autre chose.
Et vous-même, vous n'êtes pas impressionné par la masse hugolienne, Jacques Jouet?
Si, mais je...
Mais vaillamment.
J'aimerais essayer de m'y mesurer. C'est tout à fait déraisonnable.
Donc, le prochain poème, c'est dans le prochain métro?
Alors, les poèmes de métro, j'en ai un peu assez d'en faire à Paris. Mais aussitôt que je vais dans une ville du monde qui a un métro, alors là, c'est la première chose que je fais, je descends pour faire un poème de métro pour... C'est une sorte de thermomètre de la ville pour moi, de la perception de la ville, si vous voulez.
Et le dernier, il était où?
Le dernier, il était à Athènes, il n'y a pas longtemps.
Eh bien, on lira avec plaisir votre poème de métro d'Athènes, Jacques Jouet. À vous entendre, au fond, c'est ça l'enjeu de cette rencontre. On est poète parce qu'on est lecteur. Comment les poètes parlent de la lecture? Vous voulez nous donner lecture, justement, d'un poète qui lit?
Oui, le Enzensberger, un grand poète allemand contemporain, qui a écrit ce magnifique livre Mausolée, où il fait des sortes de poèmes biographiques de grandes figures, alors pour le coup. Et là, il y a ce poème sur Darwin. Donc, Enzensberger fait parler Darwin et il dit ceci. On se couche tôt, insomnie. Ces nuits, pour la plupart, étaient mauvaises. Souvent dans son lit, il ne dormait pas ou s'asseyait droit. Faible comme une mouche, insomniaque, et cette plaie, chier du sang en surabondance. Je suis une machine condamnée à dévorer des livres pour ensuite les rejeter sous une forme modifiée sur le fumier de l'histoire.
Merci Jacques Jouet.
Merci beaucoup Patrick Boucheron.
Matière à penser, Jacques Jouet, Joséphine Lempréyen, Mathieu Tourin, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Anne-Pascale Devigne, Patrick Boucheron. Demain, j'aurai le grand plaisir de recevoir l'écrivaine, poète et traductrice Marie Connet. Bonne soirée.